What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena. Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils.
Bonjour à toutes et à tous cinéphiles, terriens, lunaires ou martiens, retour à Cinémascope, la planète du cinéma en Ardèche et sur les ondes de fréquence 7. Retour après quand même, enfin je dis retour, mais après 9 jours intenses de cinéma européen. Et Cathy est là d'ailleurs pour nous faire un premier bilan de ces rencontres des cinémas d'Europe. Nous sommes aussi avec Olivier et Violetta. Bonjour.
Bonjour.
Tous les trois autour de la table. Et bonjour Sylvain.
Bonjour.
Qui est derrière la vitre. Vous viendrez, Violetta. Enfin, vous êtes là pour nous parler de Mars Express, La Tresse et Wish, Achat et la Bonne Étoile. Mais quelle idée.
Oui.
Quelle idée.
Ouais, j'en ai que des comme ça.
Oui. Bon. Commençons par la crème du cinéma, les rencontres des cinémas d'Europe. Ouais. Cathy, le bilan, un premier bilan de cette semaine, mais c'est bien plus que ça, c'est neuf jours. Intense.
Ouais, premier bilan, nous n'avons pas encore tous les chiffres, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une très belle fréquentation. Sur les propositions, enfin sur les films et puis sur les propositions que l'on a pu faire en marge des projections. En termes de fréquentation, on est à plus de 22 500 entrées. Donc en fait, on est à plus 1200 entrées par rapport à l'année dernière en termes de cinéma. C'est que sur l'ensemble du festival, on pense être autour de 27 000 au lieu des 25 000 de l'année dernière. Quoi. Donc plutôt très très bien. Voilà, on est fatigué mais très content.
Et puis surtout, tu parles des chiffres, mais aussi ce qui est très très important, c'est l'ambiance ressentie, vraiment.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez incroyable et les invités sont mais estomaqué à chaque fois par cette ambiance, par cette convivialité, par toutes ces rencontres qui se font de manière très naturelle, sans chichi, sans rien, spontanée. Mmh. Et vraiment tous les invités qu'on a reçus, mais alors particulièrement cette année, alors que les années passées c'est aussi le cas, je sais pas, mais en tout cas cette année particulièrement, on a eu vraiment des messages, j'en reçois encore, où vraiment ils sont hyper contents de l'expérience, d'être venus, d'avoir rencontré à la fois le public, les équipes. C'est ça, c'est ce que je disais avant, c'est que avant que ne commence cette semaine intense, là, c'est vrai que le mot rencontre, c'est ce qui est le plus important dans ce festival. C'est vraiment les rencontres publiques et films, rencontres invités publics, les invités avec les équipes. Enfin bon, bref, ce ne sont des rencontres qui sont très conviviales et joyeuses productive aussi, parce qu'il y a plein d'échanges qui se font. Les invités, ils m'ont tous demandé, on voudrait avoir les mails de tout le monde, parce qu'on a envie de se revoir, on a envie de partager des choses ensemble, donc ça fait vraiment du bien.
Il y a une vraie effervescence. Oui. Et puis, rencontre, mais cinéma aussi, est-ce que tu ne dis pas, peut-être par humilité, mais c'est que les invités sont aussi surpris par la qualité de la programmation et tous ceux qu'on a croisés, interviewés ou autres ont vraiment loué la qualité de la programmation des rencontres des cinémas d'Europe.
Bah, oui, alors quoi répondre à ça?
C'est, oui, non, mais c'est compliqué. Il n'y a pas forcément de réponse. Mais...
Non, mais voilà, après, je me dis, bon, bah, oui, alors c'est super, mais est-ce qu'ils avaient. Enfin, est-ce qu'ils pensaient qu'on n'était pas en capacité de...
Oui, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Est-ce qu'ils s'imaginent que, bon, voilà, comme on est au loin, au Bonin, voilà, au fin fond de l'Ardèche, on n'est pas capable de programmer? Non, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de t'imaginer comme ça, mais c'est vrai que c'est. Je me questionne toujours par rapport à ça, mais tant mieux si ça a été. Ce ressenti-là, moi je suis ravie.
Pour que l'humilité de Cathy souffre moins, moi d'un point de vue extérieur, bon, 85 films.
Oui, oui, c'est ça.
Et ce qui frappe évidemment, c'est le standard très élevé au niveau qualité, et puis à côté de ça, la diversité, c'est-à-dire de La Planète Sauvage à The Lost King, en passant, enfin, bon, bref, c'est-à-dire il y a une diversité telle qu'on est comme, en tant que spectateur, moi j'ai vécu comme spectateur lambda finalement, hein, on est repris de volet à chaque fois qu'on va voir un film, parce que c'est une nouvelle expérience, c'est autre chose, et dans toutes les langues européennes, ça aussi c'est important.
Quel est le film qui a le plus marche, on va dire, qui a rencontré un plus grand nombre de spectateurs, spectatrices?
Alors, en fait, les films qui ont vraiment rencontré leur public de manière quand même assez, assez importante, sont plus des réalisateurs affirmés, on va dire, hein, que de jeunes cinéastes.
Tu veux parler des vieux, des bah vieux oui, anglais, c'est... des, bah, c'est des ça, vieux c'est, marseillais.
C'est plutôt... Exactement. Bah, oui. Donc on est plus sur du Guédi Guillon, sur Ken Loach ou Marco Bellocchio ou Stephen Frears, on va
Chris
dire.
Chris Mackie aussi.
Oui, mais il n'est pas forcément dans le trio, voilà, ouais, ou dans le top 5, ouais, comme donc tu dis. Et puis il y a Vivre avec les loups, pardon, aussi, qui a très très bien fonctionné, de Jean-Michel Bertrand, parce que, bon, déjà, lui, sa séance a fait ça le comble, mais le film a été beaucoup sollicité aussi en scolaire. Même si le film est peut-être moins adapté des trois, enfin il est un peu plus trash et peut-être moins pour les plus jeunes que La Vallée des Loups par exemple, le tout premier, et plus politique, en tout cas plus marqué, oui. Mais bon, après c'est aussi tellement un plaisir. Et ce que je retiens de cette séance, c'est que la première personne qui a posé une question, et qui n'a même pas posé une question, mais a dit quelque chose à Jean-Michel Bertrand, c'est un enfant. Voilà, il y a plus de 300 personnes dans la salle et première intervention, c'est un enfant qui lui dit ah ben, t'as bien du courage hein, de faire ça et voilà, et enfin je trouve ça génial. Et ça c'est cette spontanéité qu'il y a aussi chez les enfants ou chez les les ados, mais les jeunes ados, qui est super. Et c'est vrai que les rencontres, c'est ça aussi. C'est que ce public se mélange, en fait, se retrouve à travers des séances, à travers des films, et que les rencontres parlent à un large public. Moi, c'est ce qui m'importe vraiment. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est vraiment réussi cette année de ce côté-là.
Particulièrement.
J'ai assisté à plusieurs séances avec des groupes d'élèves, et c'est un...
Ouais.
plaisir de voir leur plaisir.
Ouais, c'est ouais, vraiment... Ouais. Ouais, c'est un partage qui est primordial. Donc, voilà.
Bah super. Il y a pas mal de films là, qui ont été présentés pendant ces rencontres de cinéma d'Europe, donc pas mal en avant-première et qui vont être rediffusés dans les mois à venir.
Dans les mois à venir, oui, sur les trois ou quatre prochains mois, ouais, parce qu'il y avait des films qui étaient très en amont quand même de leur sortie. Donc j'espère que le public y est allé, parce que pour moi, les avant-premières, c'est presque un cadeau avant l'heure. Quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, mais je sais qu'il y a plein de spectatrices et teurs qui me disent « Ah, mais on privilégie pas forcément les avant-premières parce qu'on sait que ça va repasser après. Ouais. » Mais bon, c'est voilà, après, c'est pas forcément une... Voilà, c'est pas sûr. C'est un peu l'engagement qu'on prend.
On peut être frustré par ça.
Mais des fois, on sait jamais. Et c'est vrai que moi, oui... Pour moi, c'est plus, allez, on en profite, le film est très très en amont de sa sortie, c'est génial de pouvoir le voir maintenant, quoi. Mais c'est pas forcément la logique de tout festivalier, donc bon, voilà, c'est comme ça.
En tout cas, il y a un film qui est à l'affiche et qui était aux Rencontres de cinéma d'Europe, c'est Mars Express, que vous êtes allé voir. Merci.
Ben merci, je profite d'être en l'antenne pour remercier aussi Fréquence 7 pour tout ce travail pendant les rencontres et je sais que les invités ont été très très aussi touchés et impressionnés par la qualité des échanges et des interviews et merci aussi d'avoir vécu ces moments avec nous.
C'est un plaisir.
Eh ben, merci beaucoup. Et ben, si vous voulez en profiter, toutes les interviews et les rencontres sont à réécouter sur le site de Fréquence 7. C'est non pas dans la rubrique Cinémascope, mais dans la rubrique Le Journal des Rencontres.
Oui,
voilà, vous les trouverez. Et ça peut être intéressant de les réécouter justement à l'orée de la sortie des films en salle.
Merci Sophie.
Merci beaucoup, Cathy.
Merci Cathy.
Et, allez, Mars Express.
Sa fille soupçonnait June de se prostituer.
Regarde ce que je vois en thermique.
Vous avez des prostituées humaines ?
Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur ?
C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
Écartez-vous !
Missile !
J'arrive, Aline !
Ouh, Mars Express de Jérémy Perrin avec, je ne sais pas si on les a bien entendus, les voix de Léa Drucker, Mathieu Amalric et Daniel Njolobé. Jérémy Perrin qui était chef déco, enfin qui a été chef décorateur, scénariste aussi et donc là son deuxième film Mars Express. Violetta, tu es allée le voir.
Oui, je suis allée le voir. Alors, moi, je suis pas trop branchée sur la SF, mais franchement, oui, j'ai été conquise parce que en plus de ça, ben, je pense qu'il faut remonter loin pour que soit adapté en animation, en fait, de la SF. Moi, je pense aux plus anciens, les Maîtres du Temps, ou encore La Planète Sauvage de Laloux. Et puis, plus près, il y a eu celui de Christian Volkmann, Renaissance. Moi, je trouve que c'est une remise au goût du jour de l'élégance du film noir. Et puis imaginer comme ça un duo mixte de privé, aspiré par la tension d'une enquête rocambolesque, ça s'inscrit en fait dans les pas d'une œuvre, je pense une œuvre de cinéma live comme Chinatown.
Ouais.
Donc c'est vraiment un univers original, riche, qui mêle la 2D, la 3D. C'est vraiment une narration trépidante.
Un mot justement, juste là-dessus, sur le sujet, sur l'histoire.
Ah, sur l'histoire.
En quelques...
Oui, l'histoire, se passe en l'an 2200. Aline Ruby, c'est une détective privée qui est obstinée. Et elle a son partenaire android, Carlos Rivera. Et donc, ils sont embauchés tous les deux par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Et de retour sur Mars, c'est une nouvelle affaire qui va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de June Cho, une étudiante en cybernétique disparue. Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est le pitch de départ.
Ça, okay. C'est le pitch
on y
départ.
Est, donc thriller de science-fiction, roman noir.
Ouais. Mais en fait, tu vois, quand j'ai parlé donc, de cette narration trépidante, en fait, on sait toujours où elle... Enfin, ce qu'il réussit, en fait, Jérémy Perrin, c'est qu'il ne nous perd pas et on sait toujours où il veut conduire son public. Mais alors... Les références, elles sont foisonnantes. Il y a une sorte de ludisme, un peu comme dans un Mission Impossible. Et puis, la thématique, Laura, rappelle bien sûr Blade Runner. Et puis, on a aussi l'ombre d'Isaac Asimov, les existentialismes désespérés d'un Ghost in the Shell, voilà. Donc, ça. Mais en fait, ça fait résonance avec un futur qui n'est pas si lointain de notre temps, en fait. Hein, parce qu'il y a une description du capitalisme débridé.
Ça, ce n'est pas futuriste. Oui.
Voilà, ce n'est pas futuriste. Il y a l'aliénation aussi à la technologie. Ça parle d'isolement, de la solitude. On voit aussi, à un moment donné, une sorte de masculiniste qui dit que lui, il veut pas être en relation avec une humaine, et donc il est avec un androïde, parce que quand il a envie, il peut la déconnecter. Voilà, donc c'est
intéressant.
C'est super intéressant, vraiment.
Ça risque de donner des idées.
Non, mais on rigole pas, malheureusement, c'est ce qui se passe dans la violence faite aux femmes, c'est souvent c'est on ça. Déconnecte la compagne qui nous
tout à fait.
Déplaît.
Donc on est emmené sur Mars, mais en même temps, on continue à nous parler de notre Terre, quoi.
C'est le propre peut-être de la science-fiction de s'éloigner pour parler aussi de nous en miroir.
Exactement. Et puis les décors. Il y a cette richesse de propos et ces thématiques du transhumanisme aussi qui sont convoquées. Voilà.
Donc c'est un film d'animation, quoi, plus pour adultes, adolescents.
De 15 ans, il est sur le programme du navire, ça me paraît pas mal. Parce que pour un public plus jeune, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que le film, sa réalisation, c'est 5 ans et demi. Donc quand on regarde niveau de date, on est 2017-2018, on est avant le confinement. On dit au réalisateur Jérôme Perrin et au scénariste Laurent Sarfati qu'il y a beaucoup de choses, foison d'inventions, d'idées dans leur film, ils répondent qu'ils étaient sur France Culture. Que eux, ils n'ont pas cette impression-là parce que les découvertes, ils les ont faites sur 5 ans et demi. Et ils avaient l'impression, quand ils présentaient le film, qu'il y avait 2-3 idées, quoi. Et alors, en fait, c'est un film qui dure 1h25 et qui est d'une très, très grande densité. Et je crois que pour comprendre, effectivement, le film, c'est de la science-fiction. Mais alors, leur interview sur France Culture a commencé comme ça, au-delà. Ils étaient attachés à une crédibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, le fil n'est jamais complètement rompu entre, Violetta l'a dit, entre la vie que nous vivons et la vie de 2200 dans le film. Et même au contraire, il y a des liens. Et alors, ce qui est amusant, c'est que par exemple, quand ils ont fait le film, l'intelligence artificielle type ChatGPT, etc., ça n'existait pas. Et donc, ils font figure pratiquement, ils ont pratiquement été prophètes. Et ça redémontre qu'effectivement, il y a une espèce de continuité et on n'est pas très sûr. Et alors, on se laisse glisser vers donc les androïdes, les robots, des robots organiques, etc. Et à aucun moment, notre intelligence nous dit « Oh, c'est pas possible, arrête », etc. Donc, c'est assez prenant de cette manière-là.
Non, puis il y a surtout la fin est magique, parce que... je ne dévoile pas, mais quand tu parles des robots, même les robots pleurent. Donc, franchement...
Bon, allons voir, mais j'irai voir. Tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, juste ajouter que c'était ce film de science-fiction d'animation, le dernier connu, c'était La Planète Sauvage, de Lalou, et Violetta en a parlé, et Roland Topor. Donc moi, j'ai fait un livre, un film dessus.
Il est repassé pendant les rencontres. Alors, on reprécise, parce que tu dis le dernier grand film, et c'était en 73.
Oui. Mais il était grand prix spécial du jury à Cannes. 50 ans. Sur un roman de 57 en plus, donc prix spécial du jury à Cannes, et là il était sélectionné cinéma à la plage au festival de Cannes aussi, donc il y a cette présentation, cet éclairage dessus. Mais alors effectivement, comme le disait Violetta, autant La Planète Sauvage s'est inspiré de romans genre post-apocalyptique, mm-hmm. alors que là, c'est clairement le roman noir, oui, parce que, comme tu le disais. Oui, oui. Et donc, c'est, moi, je trouve, plus accessible, encore une fois, plus, mm-hmm. pour le spectateur, c'est plus familier, ça, mm-hmm. ça fait moins catastrophe, enfin,
oui,
etc.
Oui, 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 tout à fait.
Mais, encore une fois, un vrai et grand film qui est en animation, qui est animé, mais qui, voilà, oui, ça donne une dimension supplémentaire.
Oui, parce que les personnages, ils sont faits en 2D traditionnel, hein, à la main. Hein, donc, voilà, donc c'est plus organique. Enfin, non, vraiment.
Peut-être tout aussi organique que Wish, Achat et la Bonne Étoile. Justement, profitons-en. J'ai pas la bande-annonce, j'ai été découragée. En fait, j'ai pas pu regarder la bande-annonce jusqu'au bout. Donc, je ne voulais pas confier.
Ça m'étonne pas.
Tu es allé voir Wish, Achat et la Bonne Étoile.
C'est-à-dire que...
C'est moi. Mars Express, c'est un film, pour l'instant, il n'est que à Aubenas, au navire à Aubenas. Oui. Voilà, on l'a précisé. Par contre, Wish, Achat et la Bonne Étoile... Et partout, il est à Aubenas, à Oyons, à Privas. Et donc, ce film qui est censé être le film du centenaire de la firme Disney, hein, Disney 100 ans, donc ils proposent ce film Wish, Achat et la Bonne Étoile.
Oui, donc pour Cinémascope, je m'étais dit, il y a des mois déjà, que j'essayerais de porter une attention particulière aux programmations jeunesse. Donc je l'ai déjà fait, donc c'est dans cet esprit-là que j'ai été voir Wish, et j'ai été déçu. Non mais c'est assez monstrueux, si vous voulez. L'héroïne a 17 ans, elle vit dans une île utopique dirigée par un roi, une reine, Magnifico, le roi, et... Cette île vit sur un contrat. Tous ceux qui veulent vivre dans cette île offrent au roi leur vœu le plus cher. Et en échange, le roi organise leur vie. Voilà. Et alors, l'idée centrale du film, c'est que ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est son vœu. C'est-à-dire, c'est ce que je veux... Mes desiderata, c'est illico presto de préférence. Donc, hors antenne, tu parlais d'une inspiration New Age.
Complètement.
Elle existe. Mais je trouve bien plus préoccupant, il y a une espèce d'inspiration libertarienne qui ont un petit peu le vent en poupe aux États-Unis. Et ça donne, justement, le transhumanisme, ça donne, etc. C'est-à-dire que... Nous sommes sur Terre pour satisfaire nos désirs. Point barre. Et à tout prix. Et c'est ça qu'il faut kiffer, et c'est ça qu'il faut admirer, c'est ça qu'il faut, tous azimuts, valoriser, ma capacité ou non à satisfaire mes désirs.
Moi, c'est ce que tu nous disais aussi un petit peu hors antenne. Hein, je ne vais pas révéler ce que tu nous racontais.
C'est-à-dire ? Non, mais alors, donc c'est assez effrayant. Et alors, on parlait donc de. Il s'agit de cinéma d'animation. Alors, c'est le principe Disney. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Sauf un. C'est le Scar, hein, du roi lion, si vous voulez. Là, c'est Magnifico, le roi. Alors, tous ceux qui sont gentils sont vraiment gentils, et celui qui est méchant, il est vraiment méchant, donc c'est extrêmement manichéen, simpliste, il n'y a pratiquement pas de zone de flou, alors, de frottement, tout est lissé très rapidement, hein. Et pour faire avancer cette idée unique qu'il faut satisfaire, donc, nos désirs. L'esthétique du film, elle suit, c'est-à-dire qu'on a des caricatures de personnages. Et alors là, ce qui est frappant, c'est qu'on n'a même pas des caricatures de personnes existantes, on a des caricatures de personnages de films type blockbuster. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, en regardant ce film d'animation, de voir une caricature, deux caricatures de films live. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est entre cette esthétique à coucher dehors, parce qu'on a envie de sortir pour dormir, et oublier. Donc, entre cette esthétique à coucher dehors et cette idéologie, on en parle un petit peu en ce moment, et cette idéologie un tout petit peu frappadingue, hein, parce que c'est quand même de l'ordre de la paranoïa. Eh ben, on a un... J'ai envie de dire, si vous aimez vos enfants, ne les emmenez pas voir ça. Parce que c'est vraiment la foire à toutes les données de la pensée unique américaine du Nord actuelle. Quoi.
Eh ben, alors, à ce moment-là, il faut conseiller aux parents d'emmener voir leurs enfants Nina et le secret du hérisson, qui est franchement à l'opposé de ce film. Voilà.
Alors, y a Disney a une espèce de marque, c'est Disney Princesse. Mm-hmm. Donc, ça commence avec Blanche-Neige, Cendrillon, etc. Ça continue avec Mulan, Pocahontas, etc. Et donc, ils vendent des princesses. La dernière sortie, c'est Wish. Hein. Donc, un portrait de princesse absolument effrayant. Si les pauvres enfants s'identifient à ça, c'est une horreur. Pour donner une petite idée, les produits dérivés de Disney Princesse, c'est 25 000 produits, quand même. Voilà, en vente.
Oui, c'est ça, oui. Ça parle de produits, mais nous, on est une émission de cinéma, donc on va parler d'autre chose, et on va parler d'un autre film qui... Bon, allez, on termine par ce film.
Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire, comme les brahmanes et les fermiers.
Bonjour.
Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier.
Salut.
Je veux jouer, c'est mon tour.
Non, t'as joué
plus
que moi.
Les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis.
Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai.
Qui t'a frappé?
Le maître.
On doit partir, on doit quitter Niamatapad.
Partir d'ici? Pour aller où?
Maman, où est-ce qu'on va?
Oui. Oui, non, j'étais pas vraiment très motivée hein, ce matin pour les bandes-annonces. Et encore, la première bande-annonce qui était magnifique, je l'ai coupée en deux en me disant, bon, les autres, voilà, il va falloir gagner du temps. Mais pas du tout. Donc, La Tresse, alors je ne l'ai pas vue, donc je suspends mon jugement, mais... C'est vrai qu'un film qui proclame haut et fort « Préparez-vous à être ému aux larmes » d'après le best-seller aux 5 millions de lecteurs. Oui, c'est ça. Moi, c'est pas une... Enfin bon, ouais, c'est mais peut-être, hein, peut-être.
Moi, j'ai cru que c'était pas vrai quand j'ai vu ça.
Tu es allé voir Violetta, toi aussi?
Non. Je veux bien me sacrifier pour Fréquence 7, mais il y a des limites.
D'accord. Mais alors, Violetta ne savait peut-être pas qu'elle allait se sacrifier.
Ben, si, parce que en plus, j'ai lu le roman. Ah. Donc
par Laetitia Colombani.
Voilà. Oui, tout à fait. L'idée de ce roman... Enfin, l'adaptation de ce roman, ça a pour nœud le commerce des cheveux. Donc, on a une héroïne indienne, Smita, et puis un autre personnage canadien, Sarah, qui est une fameuse avocate. Et puis, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui... a décidé d'interrompre le lycée pour travailler dans l'atelier de son père qui fabrique des perruques en véritables cheveux. Voilà. Donc le lien en fait entre ces trois femmes, c'est la référence à cette coiffure qui unit trois mèches de cheveux, une tresse, voilà. Donc les cheveux sont aussi ce qui relie concrètement les trois personnages du récit. C'est trois femmes sur trois continents différents, des femmes que tout semble opposé, mais qui sont reliées en fait par un fil de vie.
Ouais. Alors, concrètement, là, en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, Alors, est-ce que tu as été convaincue par cette adaptation, toi qui as lu le livre ?
Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les lecteurs de ce livre, ils vont retrouver, en fait, toute la trame narrative. Voilà, il n'y a pas de, surprise. Peut-être que...
Mais l'adaptation n'est pas que cela.
Non, non, enfin, non, mais bon, ça enfin, l'adaptation, elle évite pas du tout les poncifs. Moi, je pense qu'elle juxtapose, en fait, maladroitement des tourments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, quoi. Je veux dire, cette femme en Inde, intouchable, voilà, qui veut arracher, en fait, sa fille à cette condition, ça n'a rien à voir avec, bon... la problématique de cette avocate voilà, qui a sacrifié 15 ans de sa vie pour arriver à un poste que finalement elle ne va pas obtenir en raison de la maladie, quoi.
Plus divulgage, là, peut-être, non? Mais bon, c'est peut-être pas grave.
Écoute, franchement,
voilà. Enfin, on va pas...
C'est misérabilisme, c'est y a des excès de violon, enfin pour pas dire c'est plutôt du piano.
On l'a entendu, ça a commencé dans la bande-annonce.
Les curseurs sont dramatiques en permanence, c'est poussé au maximum. Mais bon, je te dis, les fans du livre seront pas perdus, hein, parce que voilà.
La conclusion de tout ça, c'est aller voir Mars Express, voilà. À Aubenas, le premier film dont on a parlé. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir La Tresse si vraiment ça, enfin si ça vous intéresse. Hein, allez faire votre propre opinion.
Oui, il y a Second Tour, hein, aussi dont on a parlé.
Il y a Second Tour. Voilà, moi j'ai une petite réserve, hein, sur ce film.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ce que tu disais.
Vraiment, je.
Ah ben.
Ouais, mais c'est vrai que... alors, sinon, vous pouvez aller voir dans...
Il y a une année difficile.
Il y a une année difficile, justement.
Qu'est drôle.
Il y a une année difficile qui sera ce soir à 20h30 à Tueil. Donc, une année difficile, c'était le film du duo Éric Toledano et Olivier Nakache, donc, qui est dans la tournée, hein, vous le savez, de la Maison de l'Image... propose des films à l'USAS, à Tueil et dans d'autres endroits. Donc c'est ce soir à Tueil, une année difficile à 20h30. Je note aussi au passage qu'il y a Ciné Boucan, la deuxième édition. C'est un peu plus loin, c'est à Alès, mais c'est une semaine de films pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il y a des films, des rencontres, des ciné-discutes. Et justement ce soir à 20h, il y a le ciné-débat autour de « How to have sex ». Oui. Dont on a parlé, ce film qui est passé ici aux Rencontres des cinémas d'Europe et qui était dans le jury de Bouge de l'art. Et puis demain, il y a le ciné-débat à 16h avec Les Filles d'Olpha. Très beau film, ouais. Vraiment, que je vous...
Séance de rattrapage
pour
moi.
Que je vous invite. Ah ouais, ouais. Bah, c'est à 16h, donc c'est à Alès, hein, au Ciné-Planète d'Alès, samedi. Et oui. Bon, toute la programmation du Ciné Boucan est sur le Ciné Boucan de Ciné Planète, enfin, et sur le site internet, pardon, de Ciné Planète Alès. Voilà, merci beaucoup tous les deux, et merci
Sophie.
Cathy qui est déjà repartie. Merci, et merci Sylvain pour la réalisation. On se retrouve vendredi prochain pour d'autres films, d'autres imaginaires. Ciao.
Voilà, il faut parler ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.